OK, on va continuer notre leçon sur la providence. La semaine dernière, on avait commencé les avantages de méditer. On avait fait plusieurs. On était rendu, on avait à peu près la moitié de fait. Je retrouve ma place là, et on continue. On était rendu là. Alors, on était rendu le sixième point, qui est le sixième avantage, qui est de méditer sur la parole. On l'a intitulé la christocentricité. Un grand mot, là, mais qui est facile à comprendre ce qui veut dire Christ centré. On est centré sur la personne de Jésus-Christ. Alors, Christ est le canal par lequel nous recevons toutes les grâces et toutes les miséricordes. Alors, 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour nous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Ésaïe 53, verset 11. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Le chapitre 53 d'Ésaïe, c'est un chapitre merveilleux qui parle beaucoup des souffrances de Christ. Alors, christocentricité. Alors, le premier point, sous-point qu'on va regarder sous ce mot-là. Alors, on profite continuellement des bénéfices de son intercession. Souvent, c'est une chose qu'on oublie, que Christ est encore au ciel aujourd'hui et qu'il intercède pour chacun des croyants du monde quotidiennement et constamment. Alors, Hébreux, chapitre 9, verset 24, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Romains 8, 34, qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Quelle merveille de penser que Jésus lui-même intercède auprès du Père pour nos besoins. Il les connaît définitivement beaucoup mieux que nous-mêmes. Jean 15, verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Extraordinaire, quand on pense à ça. Hein? Ce qu'on demande au Père en passant par Christ, il dit qu'il nous le donne. Le septième avantage, c'est celui de la soumission. Malachie, chapitre 1, versets 2 et 3. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ses montagnes une solitude, j'ai livré son héritage au chacal du désert. Psaume 34, verset 4. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Alors, la soumission, ça fait partie des avantages de méditer sur les providences de Dieu. Le huitième avantage, c'est la tranquillité et la paix d'esprit. Avoir la tranquillité et la paix d'esprit, c'est une bénédiction énorme. Parce qu'on le sait, quand on rencontre des personnes qui ne sont pas converties autour de nous, on voit que ils sont, même s'ils ne le disent pas tout le temps, ils sont en détresse. Alors qu'un chrétien, normalement, quand il est en communion avec Dieu, il a la paix de l'âme et son esprit est tranquille. Le psaume 4, verset 8. Je me coucherai et aussi je dormirai en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Matthieu, chapitre 6, verset 27 à 34. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, Je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu rêvait ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? » Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. C'est vrai, hein? On n'est pas capable d'en prendre plus qu'une à la fois. Ce qui trouble notre paix vient de deux sources. L'apitoiement sur les malheurs de notre passé et l'inquiétude de notre futur, voyez-vous. On a de la misère à vivre dans notre présent. Alors, notre paix vient d'être troublée par le fait qu'on ressasse ce qui s'est passé dans le passé. Et là, quelque part, ça vient nous troubler. Ou bien non, on est en train de penser à des affaires qui vont arriver dans l'avenir. Donc, on vit soit dans le passé, soit dans l'avenir, mais on a de la misère à vivre dans le présent. Alors, on a une idée dans Genèse 48, verset 11. Israël dit à Joseph, « Je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. » Deutéronome, chapitre 8, verset 12 à 17. « Lorsque tu mangeras et te rassasiras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, « Ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. » Quelle belle leçon, le dernier verset. Garde-toi de dire en ton cœur, « Ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. » Peu importe la quantité de richesses qu'on a, il faut se rappeler que ce n'est pas notre force, ce n'est pas notre puissance, c'est celle que Dieu nous a donnée. Alors, si on oublie ça, le Seigneur, il dit « Prends garde de dire en ton cœur. » Parce qu'on le sait, quand les gens commencent à avoir des biens en assez bonne quantité, ils sont portés à des bretelles. Hey, moi, je suis bon. Mais le Seigneur dit, garde-toi de dire en ton cœur. Jérémie, chapitre 3, versets 12 et 13. Va, crie ses paroles vers le septentrion et dis, reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel. Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère. « Car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu, que tu as dirigé, ça et là, tes pas vers les dieux étrangers, sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. » C'est humiliant d'entendre des paroles pareilles. Hein? Il parle au peuple d'Israël, c'était le peuple élu, puis il leur dit... Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu, que tu as dirigé tes pas ça et là vers des dieux étrangers. Est-ce qu'il y a une leçon pour nous? Est-ce qu'on aurait des tendances à aller vers des dieux étrangers, les richesses, les honneurs? Nous aussi, il faut regarder ce qu'il dit puis l'appliquer dans nos propres vies. La neuvième leçon, pas leçon, mais avantage, à méditer les providences de Dieu. C'est, bien sûr, ce n'est pas une petite, c'est la sanctification accélérée. Quand on dit, on s'en va en auto, on dit accélère, P sur le gaz, P Celsius, ça fait en sorte que l'auto va plus vite. Mais dans la sanctification, c'est la même chose. Si on médite les providences de Dieu, notre degré de sanctification va s'accélérer. Donc, ça va aller plus vite. Ésaïe 57, verset 15. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Alors, toutes les voies et les œuvres de Dieu sont saintes. Dieu permet, utilise, contrôle toutes les actions de tous les hommes sans exception. Tout peut servir au Seigneur comme instrument de sanctification, même les actions des méchants. Des fois, il se passe des choses autour de nous autres, des gens qui sont inconvertis peuvent être méchants envers nous. Le Seigneur se sert même de ça pour nous sanctifier. Parce que des fois, ça nous fait réfléchir, hein, ils sont bien méchants, ça nous fait réfléchir sur le péché. Deutéronome 32, verset 4, « Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes, c'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. » Donc, quand on fait une accélération accélérée, une sanctification accélérée, on voit aussi qu'il y a une prévention du péché. Dieu nous dit dans Osée chapitre 2, verset 6, que Dieu prévient le péché, parfois, pour son peuple Israël. C'est pourquoi, voici, je vais fermer son chemin avec des épines et y élever un mur afin qu'il ne trouve plus ses sentiers. Donc, à quelque part, le Seigneur est capable de prévenir le péché pour Israël, pour son peuple, pour l'Église. Aussi, la destruction des idoles. Isaïe 27, verset 8 et 9. « C'est avec mesure que tu l'as châtié par l'exil, en l'emportant par le souffle impétueux du vent d'Orient. Aussi, le crime de Jacob a été expié, et voici le fruit du pardon de son péché. L'Éternel a rendu toutes les pierres des autels pareilles à des pierres de chaux, réduites en poussière, les idoles d'Astarté et les statues du soleil ne se relèveront plus. » Alors le Seigneur, parfois, dans l'histoire d'Israël, a permis justement la destruction des idoles. Et quand Dieu détruit des idoles dans nos vies, bien sûr, à ce moment-là, c'était des statues. Mais nous aussi, on peut en avoir des idoles dans nos vies. Alors le Seigneur, des fois, il les détruit et ça contribue à notre sanctification. Il y a aussi l'anéantissement des refuges autres que celui de l'Éternel. Des fois, quand on a des problèmes, on est porté à se réfugier dans toutes sortes d'endroits, à toutes sortes de places, ou bien non, se réfugier auprès de personnes qui n'est pas Dieu lui-même. Ésaïe 30, verset 1 à 5. « Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte, et l'abri sous l'ombre de l'Égypte sera une ignominie. Déjà, ses princes sont à Tsoan et ses envoyés ont atteint Anaïs. Tous seront confus au sujet d'un peuple qui ne leur sera point utile, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte et leur opprobre. » Alors, il avait tendance à aller, plutôt que de se confier en Dieu, il avait un problème, il se confiait à aller voir l'Égypte, « Vous allez nous protéger, hein? » Alors, il se confiait à ces nations. Alors, nous aussi, des fois, on peut avoir des comportements qui sont semblables. Vouloir chercher des appuis ailleurs que dans le Seigneur lui-même. Et aussi, une autre affaire qui fait partie du châtiment, pas du châtiment, mais de la sanctification accéléré, c'est le châtiment préventif. Parfois, le Seigneur nous châtie dans le but de nous prévenir de faire des choses plus graves. C'est un geste de miséricorde. On le voit par exemple dans Job 34, verset 31. « Car a-t-il jamais dit à Dieu, j'ai été châtié, je ne pécherai plus. » Alors, le châtiment, des fois, on le reçoit avec des larmes, on le reçoit avec un mauvais cœur, mais parfois, ça fait partie des voies de Dieu pour nous corriger, les châtiments. Et le dixième et dernier, c'est que ça va nous être utile au moment de traverser, au moment de la mort. Le fait d'avoir médité sur les providences de Dieu, ça va nous être utile à ce moment-là. Genèse 48, les versets 3, 7 et 15 à 16. Alors ici, on a vraiment le personnage de Jacob qui dit ces choses-là un petit peu avant de mourir. Alors il se rend compte que ce que Dieu a fait pour lui dans sa vie. Dans le verset 3, ça dit, Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Verset 7, à mon retour de Paddan, Rachel mourut en route auprès de moi, dans le pays de Canaan, à quelque distance d'Éphrata. Et c'est là que je l'ai enterré, sur le chemin d'Éphrata, qui est Bethléem. Versets 15 et 16, il bénit Joseph et dit, que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour. Beau verset, hein? Il est en train de se rendre compte, un petit peu avant de mourir, il dit, que Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour. Est-ce qu'on a cette prise de conscience que nous aussi, Dieu nous a conduits depuis notre naissance, depuis le début de notre existence jusqu'à aujourd'hui, de toutes sortes de façons. Et dans le verset 16, ça dit, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de son nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. On a le dernier verset, psaume 48, les versets 14. Voici le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Alors parfois, quand on vit toutes sortes de choses actuellement dans l'Église, où il y a des gens qui, bon, sont... Et quelque part, Dieu dit qu'il nous conduit jusqu'au moment où on va traverser. Il ne nous... Mais parfois, les gens traversent des émotions très, très difficiles. Mais il faut toujours garder à l'esprit que Dieu va nous conduire jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute. On a aussi Josué, chapitre 23, les versets 14. On a ici Josué aussi qui dit ce verset-là, un petit peu avant de mourir, lui aussi. Il dit, voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel votre Dieu n'est resté sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous, aucune n'est restée sans effet. Là, on parlait des promesses récemment. Plus on va connaître notre Bible, plus on va connaître les promesses, plus si on arrive, qu'on se rend vieux, on va se souvenir de l'ensemble de la fidélité de Dieu et de l'accomplissement qui accomplit toujours ce qu'il dit. Et ça, c'est quelque chose de très rassurant pour nous. Deux applications pour la leçon qu'on a commencée la semaine dernière et cette semaine. La première, surmontons notre paresse naturelle et notre résistance au changement en pratiquant la méditation de nos circonstances providentielles. Quand je dis notre paresse naturelle, c'est que je peux vous l'avoir dit la semaine dernière, je peux vous l'avoir dit cette semaine, puis ça se pourrait que ça ne fasse rien du tout dans vos cœurs, puis ça ne fasse rien du tout dans votre comportement. Alors, et on a une résistance naturelle au changement. Quand Dieu nous dit que c'est avantageux de méditer les circonstances providentielles que Dieu nous envoie, et il ne parle pas à travers son chapeau. S'il nous dit qu'on doit le faire, c'est qu'on devrait le faire. Si on ne le fait pas, c'est parce que ça a eu l'effet de rentrer par une oreille et de sortir par l'autre. Ça, entendre des paroles, entendre la parole de Dieu et la laisser rentrer par une oreille et sortir par l'autre, c'est grave. Mettons-nous à l'œuvre dès aujourd'hui. Nos efforts se transformeront rapidement en plaisir et en une plus grande proximité et une meilleure adoration de notre grand Dieu. La deuxième application, les avantages de la méditation de la Providence sont immenses et exaltantes. une meilleure communion avec Dieu, de nombreux plaisirs et délices spirituels, la suppression et la domination de notre incrédulité, le support à notre foi, les louanges et les remerciements, la vision améliorée de la personne de Christ, la soumission, la tranquillité et la paix d'esprit, la sanctification et l'aide divine pour une mort sereine. Le deuxième paragraphe, là, si on le comprenait vraiment, là, les 10 avantages de méditer les providences de Dieu sont toutes là, là dans le deuxième paragraphe. Alors, que notre grand, glorieux et souverain Seigneur soit béni, loué et exalté à tout jamais. Amen. Amen.